Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
Et celle que je retiens, c'est l'anniversaire de décès du comte de Sandwich, John Montagu, mort un 30 avril en 1792. Grand amateur de bœuf salé et de jeux de cartes, un jour lancé dans une partie de cartes interminable, il aurait demandé au serveur de lui apporter du bœuf glissé entre deux tranches de pain. Pratique pour manger sans quitter la partie de jeu et garder les mains propres. Mais en réalité, John Montagu était surtout un acharné du travail qui mangeait des sandwichs à son bureau pour ne pas s'interrompre. Une version beaucoup moins glamour. Quoi qu'il en soit, le comte de Sandwich a donné son nom à un mets emblématique. Et puisqu'on est dans les anniversaires de décès, c'est aussi un 30 avril qu'Hitler s'est suicidé dans son bunker. Sur ce, place au flash de Milia.
Recule fortement dans le monde, l'ONG Reporters sans frontières alerte. Plus de la moitié des pays sont désormais en situation difficile ou très grave, un niveau inédit depuis 2002. Seuls quelques pays comme la Norvège restent bien classés, la France, elle, est 25e, une position globalement stable. Les États-Unis, eux, chutent à la 64e place, notamment à cause des attaques répétées de Donald Trump contre les médias. Reporters sans frontières dénoncent des pressions de plus en plus fortes sur les journalistes, qu'elles soient politiques, économiques ou judiciaires. Dans les pays les plus répressifs comme l'Arabie Saoudite, la situation reste critique, avec l'exécution du chroniqueur Turki Al-Jasser en juin dernier par l'État. La guerre se poursuit au Moyen-Orient. De nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 9 morts dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Le président libanais Joseph Aoun dénonce des violations persistantes de la trêve et appelle la communauté internationale à réagir. De son côté, l'Iran hausse le ton. Le guide suprême Mojtaba Khamenei évoque une défaite humiliante des États-Unis dans la région. Le président iranien Massoud Pezeshkian, quant à lui, met en garde contre tout projet de blocus maritime qu'il juge illégal et voué à l'échec. En parlant de la guerre au Moyen-Orient, on voit bien qu'il y a des répercussions en France, ce qui provoque une hausse du coût de gaz, un papier de Léonore Royer.
Au 1er mai, le prix repère du gaz augmentera en moyenne de 15,4%. Je vous épargne le calcul, il passera donc de 139 euros à 160,50 euros. Si l'impact de cette guerre se fait déjà ressentir depuis un petit bout de temps sur le prix de l'essence, c'est maintenant au tour du gaz.
Cette augmentation.
De profiter des Elle va concerner principalement les contrats indexés sur le prix repère de vente du gaz ou sur les marchés de gros. Cela représente environ 7,5 millions de ménages, soit à peu près les trois quarts des foyers français qui avaient recours au gaz en 2025. Seuls 27% des utilisateurs et utilisatrices de gaz avaient souscrit à un contrat fixe. Pour ces personnes-là, la hausse ne se fera ressentir qu'au moment du renouvellement de l'abonnement. Pour nuancer un peu, ce prix est publié chaque mois à titre indicatif. Ce n'est pas un contrat en tant que tel, mais plutôt un repère. Il remplace d'une certaine manière les tarifs réglementés qui ont disparu en 2023.
Et c'est une hausse sans précédent, il me le semble.
En effet, c'est une première, mais elle survient durant le printemps, ce qui réduit un peu son impact. Les chauffages tournent moins, la facture de gaz concernera surtout l'eau chaude et les plaques de cuisson. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les factures augmenteront, toutes taxes comprises, d'environ 6,19 €. Le Monde citait ce matin Nicolas Leclerc, cofondateur d'Omnegy, un cabinet de conseil en énergie. Selon ce spécialiste du courtage en énergie, le prix repère sur la base des marchés de gros pourrait enregistrer une baisse dès le mois de juin. Pour Sylvain Lefaller, cofondateur de HelloWatt, une plateforme de conseil destinée aux consommateurs, la situation géopolitique risque toutefois de continuer à peser. Il redoute que les cours du gaz restent élevés l'hiver prochain.
Et pourquoi la guerre au Moyen-Orient, elle influence le prix du gaz ?
En fait, la France importe presque toute sa consommation de gaz. Au-delà du blocage du détroit d'Ormuz depuis 2 mois, les conflits ont également détruit les capacités de production et de liquéfaction du gaz. Les bombardements sur les infrastructures énergétiques dans certains pays du Golfe impactent donc fortement les prix du marché.
Merci Léonore. En France, l'économie est en pause et l'inflation est en hausse. Le PIB est resté stable au premier trimestre 2026, selon l'INSEE, alors que les économistes attendaient une légère croissance. Ce ralentissement s'explique surtout par la baisse de la construction et une consommation des ménages insuffisante pour soutenir l'activité. En parallèle, les prix repartent à la hausse. L'inflation atteint 2,2% en avril contre 1,7% en mars, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie. Une situation qui complique l'objectif du gouvernement d'atteindre 0,9% de croissance sur l'année. Un adolescent de 15 ans a été interpellé dans l'enquête sur la cyberattaque visant l'Agence nationale des titres sécurisés, soit l'ANTS, 29 ans interpellé. Depuis le week-end des 18 et 19 avril, plusieurs dégradations ont été constatées dans deux cimetières de Saint-Jacques-de-la-Lande. Les faits se sont répétés entre le 22 et le 23 avril, provoquant l'émotion des habitants et de la municipalité. Un suspect a été identifié grâce aux investigations de la police nationale, puis interpellé hier par la police municipale lors de patrouilles renforcées à proximité des lieux concernés. L'homme, connu des services de police, présente des troubles de santé mentale et aurait déjà été hospitalisé en psychiatrie, selon la mairie. Il a été placé en garde à vue, toujours en cours. L'enquête se poursuit afin de déterminer précisément les circonstances des dégradations et les responsabilités du suspect. Le Jardin Moderne relance sa saison d'open air. Léonore Royer est partie en reportage pour nous faire découvrir les 7 soirées qui se dérouleront du 7 au 27 juin.
C'est le moment de profiter des rendez-vous en plein air proposés par le Jardin Moderne. Pour l'association, mai et juin sont synonymes du retour de la saison Open Garden. 7 soirées musicales auront lieu cette année. Pour assurer l'ambiance, le Jardin Moderne a innové, comme l'explique le directeur Michel Edouard.
Alors les nouveautés, elles sont multiples. Elles vont être déjà dans l'accueil des publics, où on travaille sur un site qui est de plus en plus mutualisé, où on essaie d'améliorer l'accueil des publics, notamment en termes de sanitaire. On va faire un nouveau bar, on aménage une nouvelle terrasse. Mais on essaie d'améliorer chaque année la décoration, la scénographie pour que ce soit de plus en plus chaleureux. Un chapiteau un petit peu plus grand qui a été amélioré dès 2025, mais là donc du coup qu'on réexploite sur une deuxième année.
Pour Michel Edouard, se rapprocher d'un festival en rendant le site de plus en plus professionnel, c'est permettre à chaque association de s'exprimer. Une volonté ancrée dans les traditions du Jardin Moderne.
Nous on existe depuis 98 et on est issu d'un collectif de base. On travaille en mutualisation depuis toujours, c'est l'essence, le cœur du projet du Jardin Moderne. La mission d'accompagnement associatif, elle est au cœur du projet associatif. Par contre, le contexte économique appelle à l'entraide, évidemment.
Co-organisée avec 11 associations rennaises, la saison Open Garden est accessible à tous et à toutes et propose une programmation variée. Le collectif Symbiose ouvrira la danse le 7 mai avec une soirée Tech Groove. Marie, bénévole du collectif, nous explique l'événement.
Le collectif Symbiose, on organise des soirées de musique électronique à Rennes et Nantes principalement. Et là, on organise Kinesthésie en collaboration avec le collectif Léna. Du coup, c'est la 3e édition de ce format et la 2e au Jardin Moderne. Du coup, il y aura 2 scènes, une extérieure et la scène principale avec 3 artistes qui vont jouer de la musique techno et hard groove. Et une scène à l'intérieur, la petite scène club, avec les artistes résidents de nos collectifs, une artiste locale et le ou la gagnante du tremplin. Tout le monde pouvait participer et nous envoyer une démo musicale. Et là, on est en train de choisir qui va avoir l'opportunité de jouer du coup sur la petite scène à l'intérieur.
Pour chaque événement, des stands de prévention seront présents. Des secouristes seront également sur place.
Merci Léonore. Le Jardin Moderne et les associations co-organisatrices vous attendent nombreux et nombreuses pour l'ouverture de cette saison Open Garden. On le rappelle, toutes les informations pratiques et les liens pour réserver sont disponibles sur le site du Jardin Moderne. Merci Milia.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On passe à l'interview avec Cess.
Depuis 2 jours déjà, le Festival des créations amateurs vient de s'ouvrir sur sa 26e édition. Porté par le Théâtre du Cercle, lieu ressource des pratiques théâtrales à Rennes, ce festival propose de découvrir 13 créations et les 152 comédiens et comédiennes qui vont les incarner. En tout, ce sont plus d'une vingtaine de représentations qui sont proposées entre le 28 avril et le 10 juin et qui vont se jouer sur les planches du Théâtre du Cercle au 30 bis rue de Paris à Rennes. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Timothée Besse. Les cheveux bruns et le t-shirt sombre moucheté de petites taches blanches, il est bénévole au sein du Théâtre du Cercle pour la pratique théâtrale, mais aussi pour se charger de sa communication. Bonsoir Timothée Besse.
Bonsoir.
Est-ce que pour commencer cet entretien, vous pourriez nous parler un petit peu de cette structure qu'est le Théâtre du Cercle, associé au Cercle Paul Bert, et votre histoire personnelle avec ces structures ?
Alors le Théâtre du Cercle, c'est effectivement une structure qui fait partie de l'association Le Cercle Paul Bert, qui a surtout beaucoup de groupes sportifs, mais aussi culturels. Mais l'existence du théâtre en tant que bâtiment, en fait, est plus vieille que ça. Il date des années 80, donc elle a une histoire assez longue et plusieurs, plusieurs histoires en fait avant d'arriver à son existence actuelle. Et ma propre histoire avec le théâtre, j'ai dû rejoindre le Théâtre du Cercle en 2010 en revenant à Rennes après mes études. Et j'ai suivi les ateliers de plusieurs des intervenants là-bas et je me suis beaucoup attaché à l'équipe, à la communauté qui se forme autour du théâtre. Et j'ai rejoint le bureau depuis 5 ans. En fait. Ça faisait un moment que je profitais en fait de ce qui était proposé par le théâtre et donc j'ai voulu contribuer moi aussi à participer à l'organisation de tous ces projets.
Redonner un peu ce qu'on avait reçu finalement.
Exactement.
Et d'ailleurs, le Théâtre du Cercle met beaucoup en valeur la notion d'amateur, de pratique amateur, en tout cas qu'on va voir sur le site. Mais il y a également une insistance sur le caractère professionnel des intervenants et intervenantes qui viennent. Mmh. Et je me demandais comment vous vivez ça, comment ça se conjuguait en termes d'ambition artistique et culturelle.
Le Théâtre du Cercle, c'est un lieu qui est vraiment un lieu de rencontre entre la pratique professionnelle et amateur. Et donc là, le Festival des créations amateurs met en avant les comédiens amateurs, mais en fait, c'est un festival qui est exactement au cœur du projet du théâtre, c'est-à-dire que les comédiens sont amateurs, mais sont finalement les seuls amateurs du projet. La mise en scène est réalisée par des compagnies professionnelles, par des intervenants issus de compagnies professionnelles, et la lumière aussi, et une création qui est faite par des techniciens et des régisseurs professionnels. Donc chaque pièce est en fait une coopération entre des professionnels et des amateurs.
Et comment vous vivez cette notion d'amateur ? Est-ce que ça a à voir avec, par exemple, la place que le théâtre peut avoir dans la vie des personnes ? Est-ce que c'est un rapport d'expérience avec la scène ?
Le critère le plus basique, c'est est-ce que c'est une pratique qu'on fait pour vivre, en fait, est-ce qu'on vit grâce à la pratique du théâtre ? Mais finalement, les frontières sont plus floues. Il y a des amateurs qui ont 10, 20, peut-être 30 années de théâtre derrière eux et qui y mettent probablement plus d'importance que leur vie professionnelle. Des professionnels aussi qui régulièrement travaillent avec des amateurs et qui eux-mêmes essaient d'en vivre malgré tout. L'intérêt aussi, c'est de partager ce lieu, c'est que les cotisations des amateurs pour leur pratique permet aussi de maintenir une programmation professionnelle. Cette programmation professionnelle est financée aussi par la ville de Rennes. Dans ce même lieu, il y a aussi régulièrement des espaces aussi de rencontres entre les professionnels et les amateurs, notamment des sorties de résidence des professionnels à laquelle les amateurs pourront participer, toute la programmation du professionnel au cours de l'année à laquelle on peut assister aussi. Et puis le fait que l'organisation de ce lieu est portée par une salariée, par aussi d'autres salariés du Cercle Paul Bert, mais aussi une bonne partie du travail des bénévoles. Les billetteries des spectacles professionnels sont assurées par des bénévoles du théâtre aussi.
Donc il ne faut pas du tout y voir une hiérarchie de qualité, c'est plus différents acteurs d'un même système qui permettent au théâtre d'exister de plein de façons différentes. Et en parlant de ces façons différentes d'exister, c'est déjà une pratique polyforme en soi, le théâtre. Mais en l'occurrence, vous ne parlez pas d'un festival de théâtre amateur, mais de création amateur. Et du coup, je me demandais si vous aviez choisi ce terme de création pour pouvoir incarner des formes plurielles comme la marionnette, le théâtre-objet, le clown, qui sont déjà des formes qui existent dans la programmation à l'année.
Ouais, c'est effectivement une porte ouverte parce que ces formes de création sont largement représentées dans la programmation professionnelle, dans les stages aussi, en fait, au-delà des pratiques à l'année. Les amateurs peuvent aussi faire des stages sur un week-end ou une semaine où ils peuvent pratiquer le clown, le théâtre d'objets, le drag aussi. On a eu vraiment des propositions très, très diverses cette année. Je crois que dans la programmation habituelle du Festival des créations amateurs, il y a peu de théâtre d'objets, mais c'est quasi systématiquement du théâtre contemporain et avec des formes vraiment diverses dans la mise en scène, dans la mise en lumière. La porte est ouverte, mais je ne crois pas que dans la programmation cette année, il y ait particulièrement du clown ou du théâtre d'objets. On est vraiment sur du texte de théâtre contemporain.
C'est pour se laisser la liberté, finalement.
C'est ça.
En préparant cet entretien, j'ai eu un petit moment de confusion parce que l'affiche précise 29 dates et sur le site, on parle de 25 représentations. Face à ce dilemme mathématique, j'ai enquêté. La fautive, c'est Tag, une série théâtrale et rock qui sera en 3 épisodes, donc une seule représentation intégrale, mais 3 dates. C'est un spectacle ambitieux, ça, non ?
Ouais, alors j'ai pas vu ce spectacle, il sera joué, je vais le découvrir en même temps que vous. C'est arrivé dans le passé aussi que certaines créations sur l'année prennent beaucoup de place ou soient faites en plusieurs épisodes et déclinées sur 3 dates. Et il faut savoir que le fait de pouvoir faire 3 représentations pour chaque groupe d'amateurs, c'est quelque chose de très très rare, d'unique en fait. Et c'est une expérience qui est vraiment incroyable quand on est comédien de pouvoir... faire 3 dates, avoir une date qui se passe très bien, avoir une date où on est peut-être un peu moins content de soi, une 3e où on se lâche, où on trouve des nouvelles choses au moment de la représentation. Et donc, c'est vrai qu'on se plonge là pendant presque une semaine, entre la générale et les 3 présentations, dans un état de partage et dans des trajectoires émotionnelles intenses. Et là, pour ce qui est de la pièce rock en 3 épisodes, je vais la découvrir en même temps que vous, donc je verrai un peu son ambition et puis ce qu'ils ont cherché à explorer ça là-dedans dans ces 3 épisodes-là, en même temps que vous.
À découvrir. Mais une pièce que vous connaissez peut-être un petit peu plus, c'est celle que vous allez jouer. Vous serez sur scène les 20 et 21 et 22 mai en compagnie d'autres comédiens amateurs et comédiennes amatrices. C'est mise en scène par Alice Millette et Rosane Trégoat. Cette pièce n'est nulle autre que Les Idoles de Christophe Honoré. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ?
C'est la 2e pièce de Christophe Honoré que Alice Millet et Rosane Trégoat mettent en scène avec ce groupe. L'année dernière, nous avions joué le Ciel de Nantes et on a passé. Enfin voilà, c'était une expérience très très forte. On retrouve le même groupe cette année avec un attachement très fort, donc on devient presque une petite famille et donc on était très impatients de retravailler avec Alice et Rosane. Et ce texte-là, Des Idoles, c'est Christophe Honoré. Alors, l'année dernière, dans la pièce Le Ciel de Nantes, il convoquait sa famille pour un peu déposer les histoires de chacun. Cette fois-ci, c'est Christophe Honoré qui convoque ses idoles, qui sont des écrivains et cinéastes morts du sida et qui ont traversé cette période-là et qui échangent entre eux. Ils sont convoqués de manière... Comme des fantômes très concrets qui échangent entre eux sur leur création, leur façon de dire ou ne pas dire leur maladie, et puis leur désir aussi, leur fantasme et tout ce qu'ils pouvaient projeter dans leur création, la façon dont ça se répond. Et chacun a une individualité très propre et ils se retrouvent là à devoir débattre et puis à imaginer un peu ce que représente aujourd'hui dans la culture leur héritage et ça s'est porté par Christophe Honoré en fait qui s'est beaucoup nourri de leur création dans son œuvre.
On comprend pourquoi vous avez choisi cet auteur, mais pourquoi cette pièce en particulier? Comment le choix s'est fait? Est-ce que c'est les intervenantes qui viennent avec des propositions? Est-ce que vous-même vous aviez déjà des petits attentes en arrivant au moment de choisir le texte?
Non, c'est vraiment Alice et Rosane qui ont eu un coup de cœur sur ce texte-là. L'envie aussi de poursuivre avec cet auteur. Et nous, dans le groupe, on leur a fait... on s'en est complètement remis à elles en leur faisant une pleine confiance parce qu'on connaît leur travail. Et c'est vrai que c'est un texte qui peut être déroutant, qui met sur scène aussi des paroles qui peuvent être très datées et très, très difficiles aussi finalement à reprendre sur des choses qui pourraient pas être écrites comme ça aujourd'hui. Mais Christophe Honoré a respecté aussi la parole de ces personnes-là telle qu'elles pouvaient vivre ces questions dans les années 80. Et donc, on essaie de mettre ça... sur scène avec notre propre sensibilité, avec nos corps, nos voix, notre connaissance ou notre ignorance de ce qu'était leur vie. Et c'est très intéressant comme parcours à faire avec ces personnages-là.
Et vous avez travaillé ça pendant 8 mois. Est-ce qu'il y a un temps fort en particulier, une anecdote que vous aimeriez nous raconter sur ce travail de préparation de longue haleine?
Des anecdotes, on trouve plein d'occasions pour se retrouver et travailler sur le texte et puis passer du temps ensemble. Ce qui nous porte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes collectives où on est tous ensemble sur scène et ça fait qu'on passe beaucoup de temps aussi à travailler ensemble. On y danse aussi sur cette pièce-là. C'était dans l'écriture de la pièce de Christophe Honoré. Et donc, on fait l'exercice aussi avec nos capacités, nos corps et puis notre sens du rythme de créer une scène poétique, homogène, de danse. Et voilà, se rajoute dans cette pièce-là finalement beaucoup de modes d'expression qui peuvent nous bousculer un peu et dans lesquels on s'amuse beaucoup avec ça.
Ça donne envie. Un des aspects qui m'intéressait en parcourant le projet associatif et culturel du Théâtre du Cercle, c'est que vous accueillez toute tranche d'âge. La programmation ne met pas en avant l'âge des groupes de comédiens et comédiennes, même si on peut un peu préjuger en fonction des pièces. Je pense par exemple à Dans ma tête d'Eli Roy, qui adapte sur scène le film Vice et Versa de Pixar. Donc on peut présupposer qu'a priori ce sont plutôt des jeunes qui seront sur scène. Ça reste encore à confirmer. Et comment ça se passe, l'accueil des différents publics? Est-ce que, par exemple, il y a des groupes intergénérationnels où jeunes et moins jeunes se retrouvent?
Il y a des groupes enfants qui vont... Leur représentation va se regrouper sur un week-end. Et historiquement, leur représentation se faisait sur un week-end un peu de fête du théâtre qui rassemblait tous les groupes d'enfants, leurs parents, les familles, etc. Et des bénévoles du théâtre. Il a été choisi de rassembler les deux festivals enfants et ados-adultes dans la même programmation. Et du coup, on se retrouve effectivement à ne pas voir sur la programmation est-ce que c'est un spectacle fait par des enfants, des ados ou des adultes. L'envie, c'était que les enfants, les ados fassent partie du festival au même titre que les autres parce qu'il y a de fait une très grande qualité dans la présentation des ateliers enfants et ados. Ils mettent beaucoup de cœur et beaucoup de techniques aussi qu'on retrouve parfois même ils ont des jeux presque plus techniques que les adultes. On trouvait ça intéressant de pouvoir les mettre au même
une place équitable, quoi.
D'avoir la même place que les autres groupes. Pour ce qui est de l'intergénérationnel, en fait, les enfants ont leur groupe, les adolescents ont leur, mais après, ensuite, les groupes adultes n'ont pas de différence ni de niveau ni d'âge. Donc, il y a vraiment des écarts qui peuvent être très importants dans les groupes et ça donne une vraie richesse. On a des groupes de vétérans qui accueillent des débutants qui trouvent leur place très vite et qui déploient un talent de jeu fantastique dès leur première pièce. Et donc, ça permet aussi de pouvoir avoir une galerie de personnages assez variée en fonction des pièces.
On n'aura malheureusement pas pu faire le détail des 13 créations qui seront présentées. Mais déjà, merci Timothée Besse pour cet échange. Est-ce que vous aviez un mot de la fin à apporter avant qu'on conclue?
Non, je vais inviter les auditeurs à de la curiosité. Il y a beaucoup de propositions et souvent, c'est des textes qui sont choisis avec soin et les comédiens qui mettent du cœur. Donc, on ne regrette jamais de profiter de ces espaces-là, même si on ne connaît pas directement les comédiennes et les comédiens. Je vous invite à aller voir la programmation sur le site, de prendre vos places aussi, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui se retrouvent vite complètes.
La jauge est petite.
Et c'est une petite jauge de un peu moins de 90 places.
Mais ça fait aussi que c'est intime et confortable.
C'est très convivial. Et puis, à la fin de chaque pièce, il y a un temps aussi, une buvette pour pouvoir prendre un verre, discuter de la pièce, rencontrer les comédiennes et les comédiens. Et puis, peut-être donner envie de rejoindre les ateliers et de faire partie un peu de cette communauté, de ce festival les années suivantes.
On le rappelle, le Festival des créations amateurs a déjà commencé, mais c'est loin d'être fini. Il continue jusqu'au 10 juin. Notez cependant que ce jeudi 30 avril, c'est le dernier soir, vous pourrez assister à D'autres mondes de Frédéric Zontag, mis en scène par Éric Lepage et avec Caroline Jiquel à la régie. On y suivra un physicien et un écrivain des années 80 qui, via la science-fiction, vont interroger notre rapport à la réalité, à la temporalité et à notre besoin viscéral d'imaginer des ailleurs plus habitables. Il est encore temps de réserver votre place. De ce que j'ai vu, il en reste 19 sur la billetterie Elo Asso du Théâtre du Cercle. Allez-y.
Merci Cess pour cette interview.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Pour cette première chronique de la saison, j'avais cette envie de parler de l'engagement, un terme un peu vidé de son sens ces dernières années. Bienvenue dans Sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. On commence avec l'actualité du week-end passé. Si vous m'aviez écouté l'année dernière dans cette même émission, vous savez que je suis une très grande fan de football. En Ligue 1 et Ligue 2, les joueurs ont retiré leur nom pour porter le prénom d'une victime de discrimination raciale, sexiste, homophobe ou encore antisémite. Le slogan « 34 prénoms, 34 histoires, une même réalité » porté par la LFP en collaboration avec des associations telles que Her Game 2, la LICRA et Foot Ensemble. Une démarche qui veut mettre au centre les récits des victimes et qui met fin aux journées dédiées à chaque cause, comme on a pu le connaître ces dernières années. Ainsi que les polémiques autour des récalcitrants à soutenir une lutte, notamment celle de contre l'homophobie. Alors que l'initiative de la campagne est à saluer et à encourager, car elle incarne les victimes de discrimination, j'émets quelques réserves. En vérité, derrière cette volonté d'universalisme, il y a une forme de nivellement. Les violences subies par les femmes, les personnes non blanches, les LGBTQIA+, les musulmans et les personnes handicapées ne se vivent pas de la même manière, ni avec la même intensité. Et c'est là que la pensée intersectionnelle manque. Les discriminations ne se valent pas, notamment parce qu'elles se croisent et se renforcent. Que dire également de la situation de la section féminine de Dijon? Elle semble partie pour payer les pots cassés d'une mauvaise gestion d'un club. Pourtant cinquième de la D1 Arkema, la plus haute ligue de football féminin en France, elles ne sont pourtant pas assurées de jouer cette même ligue l'année prochaine. Cette situation a poussé les capitaines à prendre la parole via la voix de leur syndicat avec une tribune cinglante rappelant que la signature de la convention collective qui pourrait protéger les actrices du foot français n'avance pas depuis 3 ans. Et oui, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais pas trop. C'est dans ce contexte que le Havre a fait un choix clair, refuser le flocage national et choisir de porter le logo de la Maison des Femmes du Havre sur ses maillots. Ici, pas de catalogue symbolique des causes, pas de volonté d'embrasser toutes les discriminations en une seule image. Jean-Michel Roussier, président du club, explique que les joueurs ne sont pas des porte-parole d'opérations individuelles et que ces actions doivent être liées à des structures concrètes ancrées dans le territoire. Face à une LFP qui démultiplie les messages nationaux dans une logique d'universalisme moral, cette position peut apparaître comme une manière de reprendre la main sur le sens de l'engagement. Assez parlé de football, on a tout de même accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, le sport étant la grande cause nationale cette année-là. Une parenthèse enchantée qui devait laisser un héritage fort. Les médailles ont brillé à l'Arc de Triomphe, mais qui écoute les revendications de ces athlètes? Rézi Bantou, ex-basketteuse professionnelle qui accompagne désormais les entreprises dans la définition et le déploiement de leur stratégie RSE-RH au travers des valeurs du sport, nous en parle.
On est capable en fait collectivement de les célébrer comme des héros, de célébrer les athlètes comme des héros. Mais dans le même temps, leur parole reste parfois limitée ou contestée dès lors qu'elles sortent du cadre sportif.
Le fameux « joue et tais-toi », cette injonction classique, en gros « t'as dans le ballon, pas dans la société », est encore très présente actuellement. Dès qu'un athlète prend la parole. Sauf qu'avant de devenir des sportives et sportifs adulés, ces athlètes n'en restent pas moins des citoyens comme vous et moi. Certes, avec une caisse de résonance plus forte, mais quand même, on ne devrait pas leur retirer le droit de s'exprimer et d'être engagé. Mais d'ailleurs, être engagé, c'est quoi au final?
Et être engagé, ce n'est pas seulement représenter une cause ou donner, c'est incarner un sujet, s'y inscrire dans le temps, et parfois créer des solutions concrètes. Et je trouvais qu'il était intéressant de donner des exemples, notamment en France, avec Pauline Desroulettes, qui est une joueuse paralympique en tennis fauteuil, qui en est un excellent exemple. Après son accident en 2018, elle s'engage fortement pour la sécurité routière. Elle ne s'est pas juste arrêtée à la sensibilisation, elle a contribué à porter des propositions concrètes dans le débat public, notamment autour de la lutte contre les comportements à risque au volant. Un autre engagement aussi qui a été très marquant, qui est celui de Sarah Abitbol en 2020. Elle brise un silence majeur en révélant les violences sexuelles qu'elle a subies dans le patinage artistique. Son témoignage provoque une onde de choc dans le sport français et contribue à libérer justement la parole sur ces sujets. Et dans la continuité, elle a mis en place une association avec, qui s'appelle La Voix de Sarah pour accompagner les victimes et faire évoluer les mentalités avec des répercussions jusque dans les discussions politiques.
Un grand merci à Rézi qui nous a partagé son expertise sur l'engagement dans le sport. C'était Sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. À bientôt.
Merci Marilyn pour cette chronique Sur la ligne de touche, la chronique qui s'arrête là où les matchs ne figurent plus au classement sur ce que le sport dit du monde et ce que le monde fait au sport. Et elle vous a laissé avec ces deux questions. Est-on prêt à laisser le sport déranger, protester, exiger, plutôt que de lui demander de se contenter d'un simple décor de vertu? Et est-ce qu'on est prêt à reconnaître les athlètes comme acteurs sociétaux à part entière, pas juste des performateurs? Et Léonore, on n'écouterait pas le répondeur par hasard?
Allez, c'est parti!
Le téléphone!
Allô, allô.
La radio sauvage.
Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien ce soir sur le répondeur. Bon, alors je vous redonne le numéro et notez-le bien. 02 30 96 25 35. On vous écoute peu importe d'où vous venez en Bretagne. Laissez-nous un message vocal, on le diffuse en fin d'émission. Si vous avez des retours à nous faire sur nos interviews, reportages, chroniques ou même juste à répondre aux questions de Marilyn, n'hésitez pas, je vous le redis. 02 30 96 25 30 35. Merci à Wena pour la technique et à lundi dans 6 heures avant minuit.
Merci à Wena, à lundi.
Si la radio sauvage.
Quelle heure est-il?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure 7h.
6h avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.